Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre que je retrouve avec une certaine émotion puisque c'est ici que je finissais mon cours de l'année dernière, tant bien que mal, dans des circonstances plus que difficiles. Puisque je venais d'apprendre que mon mari était atteint d'un cancer qui s'est entre-temps révélé très agressif et qui a nécessité un traitement lourd, long et pénible, un véritable calvaire sans aucune exagération. Je vous laisse deviner combien toute notre vie depuis lors s'en est trouvée bouleversée et plus particulièrement combien mon travail et mes obligations professionnelles s'en sont ressenties. J'ai bien cru que je n'allais jamais pouvoir revenir ici pour poursuivre avec vous l'aventure dans laquelle nous nous sommes engagés ensemble il y a déjà quelques années, mais il m'est apparu que de renoncer, de se résigner à abandonner serait une manière de laisser tout le terrain à la maladie. Et cette maladie que certains d'entre vous connaissent soit directement, soit indirectement, et que je comparerais volontiers à une bête, vraiment une sale bête, à la fois féroce et sournoise, il faut trouver un moyen, n'importe lequel, de la tenir en respect. Et le fait de revenir aujourd'hui devant vous en est un. Et c'est même, j'en suis convaincue, un moyen très puissant. Je vous sais donc infiniment gré d'être présent et fidèle au rendez-vous, mais comme vous pouvez vous en douter, le cours de cette année n'a pas pu être préparé dans les conditions habituelles, qui sont déjà suffisamment stressantes. Je dois ajouter qu'il n'est pas absolument certain qu'il pourra être délivré avec la régularité habituelle. Je vous invite donc à rester informé des imprévus toujours possibles en vous connectant assez régulièrement à ma page web du site internet du Collège de France, sur lequel il est peut-être utile de le rappeler, vous pouvez trouver l'intégralité de l'enregistrement audio et vidéo, donc grâce à notre caméraman qui est toujours présent et que je salue. Cet enregistrement de mon cours de l'année dernière, que vous pouvez soit suivre en ligne sur Internet ou podcaster librement. Alors, à partir de cette année, vous devriez également trouver en ligne une version en anglais et une version en chinois de mon cours de l'année dernière, ainsi que du cours de cette année, qui sera en principe traduit dans ces deux langues, donc au fur et à mesure. Alors ça, c'est quelque chose qu'offrent donc les moyens de diffusion donc du Collège de France et qui, à mon sens, sont tout à fait conformes donc à l'esprit de service public du Collège de France. Alors j'ajoute un mot sur cette traduction en chinois. Peut-être pour la plupart d'entre vous qui êtes présents ici, c'est peut-être pas très utile. Mais je sais par des témoignages que j'ai eue lors de mes passages en Chine qu'une version en chinois peut donc rendre véritablement service donc à la disons au public chinois. On m'a même dit très explicitement que ces cours du Collège de France sont un espace d'expression qu'on sait pour être libre. Alors, l'aventure dans laquelle nous nous sommes embarqués ensemble il y a maintenant 3 ans, c'est donc la revisite, ou plutôt donc la multiplicité de revisites au pluriel de Confucius et du texte des entretiens qui lui est associé. Revisite qui s'efforce constamment de tenir les deux bouts, pour reprendre une expression qui, comme vous le savez, m'est chère, c'est-à-dire de montrer des processus plus ou moins anciens de composition et d'interprétation de textes à la lumière d'enjeux contemporains. Alors, c'est ainsi que notre point de départ, ça c'était pendant ma toute première année d'enseignement en 2008-2009, notre point de départ a été précisément la situation tout à fait contemporaine, au point qu'elle est encore en cours, du retour de Confucius en Chine continentale, phénomène massif qui touche de nombreux secteurs et strates de la société chinoise, et phénomène d'autant plus spectaculaire qu'il est exactement à l'inverse de ce que l'on observait il y a tout juste une génération, c'est-à-dire la génération des années 1970. À savoir donc ce qu'on observait il y a donc une génération, c'était donc une volonté de destruction massive de tout l'héritage traditionnel perçu comme étant essentiellement confucéen. Alors, soit dit en passant, ce retour de Confucius en Chine est actuellement en train de s'exporter à l'international, voire de se globaliser, notamment grâce au fameux Institut Confucius qui se monte aujourd'hui à plusieurs centaines dans une cinquantaine de pays partout dans le monde et qui, à la différence des alliances françaises ou des instituts Goethe sur lesquels ils sont censés prendre modèle, ces instituts Confucius s'implantent à même les structures universitaires où ils sont d'autant mieux accueillis qu'ils arrivent le plus souvent avec des moyens matériels non négligeables et des enseignants venus directement de Chine au moment même où les gouvernements se désengagent de plus en plus du financement des universités, comme cela tend à être le cas en France, où l'on compte déjà une quinzaine de ces instituts implantés dans plusieurs universités à Paris et en province. Alors, ce retour de Confucius, disais-je, s'accompagne d'un soudain renouveau d'intérêt pour le Lunyu, titre chinois que l'on traduit le plus souvent en français par entretien. C'est le titre que j'ai choisi pour ma propre traduction, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, ce Lunyu, qui fait aujourd'hui figure de best-seller dans les librairies chinoises, au point qu'on en oublierait presque la hargne avec laquelle il a été vilipendé et même parfois brûlé pendant la Révolution culturelle, et plus particulièrement pendant la campagne de 1974 de critique contre Lin Biao et Confucius. Donc, ce qu'on a appelé en chinois le Pi Lin Pi Kong. Campagne et plus généralement révolution culturelle, qu'ont bien connu nombre de nos intellectuels français et pas des moindres. Donc là, vous avez cette image que vous connaissez déjà peut-être, donc de la destruction du temple de Confucius sur son lieu de naissance à Chufu. Ici, donc, vous avez ce slogan, donc Pi Lin Pi Kong, ici, scandé donc par des ouvriers en route vers Pékin. Et donc, vous avez la version de notre grand Roland Barthes. Donc, le graphisme est un petit peu incertain, mais il a fait ce qu'il a pu. Et vous avez ici, donc, par le même Roland Barthes, un petit dessin de Confucius que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très, très mignon. Alors, donc, avant d'aborder les nombreuses questions, voire les polémiques que continue de susciter ce texte du Lunyu ou des entretiens, il m'a semblé important de retracer avec vous, dans une démarche à rebours, dans une sorte d'enquête généalogique, en quelque sorte, de retracer les modes de lecture qui ont déterminé et donné forme à notre manière actuelle d'aborder et de concevoir ce texte et son histoire. Quand nous lisons le Lunyu, ou que nous en parlons, que nous en traitons, nous le faisons avec un certain nombre de présupposés, ou, pour employer une image là aussi que j'affectionne beaucoup, avec des lunettes sur le nez, donc des présupposés qui sont tellement considérés comme acquis que nous n'en prenons même plus conscience. Nous n'avons même plus conscience des lunettes que nous avons sur le nez. Et donc, a fortiori, nous ne sommes pas portés à remettre en question ces présupposés, puisque nous n'en avons plus conscience. Alors, d'où nous viennent ces présupposés? Alors, certes, de la longue tradition interprétative et exégétique chinoise, mais aussi, comme nous l'avons vu pendant l'année de cours 2009-2010, de la façon dont ce texte, avec d'autres textes du corpus canonique confucéen, a été présenté pour la première fois au lectorat européen grâce à la médiation et aux traductions des missionnaires jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous vous souvenez peut-être du Confucius Sinarum Philosophus, donc Confucius philosophe des Chinois, qui est donc le premier compendium de traduction en latin par un groupe de jésuites qui date de 1687, qui est paru donc à Paris en 1687, à la toute fin du XVIIe siècle. Donc une traduction en latin d'une certaine partie du corpus confucéen, dont les entretiens de Confucius. Et ce Confucius Sinarum Philosophus, vous vous souvenez peut-être que Thierry Ménard, qui est donc lui-même jésuite et en même temps professeur de philosophie à l'université de Canton en Chine, Thierry Ménard est venu nous en parler ici au collège et entre-temps a fait paraître un ouvrage en anglais sur le sujet qui reprend donc ce titre, Confucius Sinarum Philosophus, The First Translation of the Confucian Classics, c'est-à-dire donc la première traduction des classiques confucéens, qui est paru de manière peut-être un tout petit peu confidentielle pour nous dans des éditions jésuites, comme il se doit, les Monumenta Historica Societatis Jesu, à Rome, donc en 2011. Et j'ai le lien, internet pour ceux que ça peut intéresser. Alors, cette médiation jésuite qui a donné lieu à ce que j'ai appelé le premier moment de mondialisation de Confucius a eu pour effet d'imprimer dans les esprits européens la représentation d'un Confucius philosophe et rationaliste, conforme à l'idéal européen de la Renaissance, puis des Lumières européennes. Et de façon similaire, les entretiens, en tout cas dans la même perspective, les entretiens de Confucius se sont trouvés traduits et lus sur le modèle des dialogues de l'Antiquité grecque. Alors, cette qualification philosophique de Confucius, qui donc est d'emblée présentée aux élites européennes comme le philosophe des Chinois, donc cette qualification philosophique a perduré malgré le rejet de la Chine hors du champ de la philosophie par l'Europe du XIXe siècle, comme nous en avons parlé dans un cours précédent. Et cette situation, cette qualification philosophique perdure jusqu'à aujourd'hui, plus que jamais, puisque récemment encore, nous a été proposée une traduction philosophique des entretiens en anglais. Je vous ai parlé l'année dernière de cette traduction par Roger Ames et Henry Rosemont Jr., intitulée « The Analects of Confucius, a Philosophical Translation ». Donc, « The Analects of Confucius », c'est comme ça que l'EU est très souvent traduit donc, en anglais. Et le sous-titre souligne bien le fait qu'il s'agit d'une traduction philosophique et qui est parue à New York en 1998. Toutefois, comme nous l'avons vu dans le cours de l'année dernière et comme en témoigne l'origine américaine de la traduction que je viens de mentionner, il s'est produit un changement radical dans la dite qualification philosophique, puisqu'on est passé entre-temps d'une tradition européenne à une tradition américaine, celle beaucoup plus récente du courant pragmatiste. Alors, le petit livre du philosophe pragmatiste américain, Herbert Fingeret, intitulé Confucius, the Secular as Sacred, c'est-à-dire Confucius, le séculier en tant que sacré, paru en 1972, et dont nous avons, vous vous en souvenez sans doute, longuement parlé l'année dernière, ce petit livre a profondément révolutionné notre façon d'aborder les entretiens qui n'apparaissent plus comme l'enseignement antique d'une sorte de Socrate chinois, hein, avec cette double exoticité à la fois spatiale et temporelle, mais qui, bien au contraire, selon Fingeret, a quelque chose de nouveau à nous apprendre. Fingeret nous dit que Confucius has a new lesson to teach, c'est-à-dire donc il a une nouvelle leçon à nous enseigner, à nous qui vivons dans le monde occidental moderne du tout début du troisième millénaire. Or, ce quelque chose, c'est le caractère intrinsèquement ritualisé de toute relation humaine et plus généralement de toute humanité. Et Fingeret a recours ici donc à l'antique terme chinois de li, qui donc désigne génériquement les rites et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir très largement cette année. Donc, dans ces deux moments, européens puis américains, nous sommes passés d'une mondialisation de Confucius à une autre, c'est-à-dire d'une première mondialisation véhiculée en latin dans le monde européen jusqu'au XVIIIe, voire jusqu'au XIXe siècle, à une seconde mondialisation véhiculée en anglais, la nouvelle lingua franca du monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et de ce fait, nous sommes aussi passés d'un paradoxe à un autre. Alors, le premier paradoxe résidait dans la représentation par les missionnaires chrétiens jésuites d'un Confucius agnostique, qualifié, pour reprendre la terminologie d'époque, de philosophe païen. Alors, ce Confucius leur permettait d'accommoder, pour reprendre un terme qui s'applique justement à cette stratégie jésuite, qui leur permettait d'accommoder la foi chrétienne à la culture chinoise des élites confucéennes. Il était en effet primordial pour les jésuites de montrer, et je rappelle que cela a été le point d'achoppement de la fameuse querelle des rites, de montrer que les rites confucéens n'avaient rien de religieux pour pouvoir affirmer que ces rites étaient parfaitement compatibles avec le culte chrétien du Dieu unique et que on pouvait même supposer que ces rites confucéens étaient une sorte de préfiguration inconsciente du culte du Dieu unique. Or, ce paradoxe se retourne, exactement comme un gant, dans l'optique d'un Fingeret, pour qui c'est précisément le sécularisme de Confucius qui donne à la relation humaine un caractère quasi religieux, en sacralisant donc l'humain dans sa qualité relationnelle. Alors, trois siècles après le Confucius Sinarum Philosophus de 1687 des jésuites, Et un demi-siècle après le Confucius, The Secular as Sacred de Fingeret, nous pourrions considérer que le moment est venu d'une troisième mondialisation de Confucius. Nous assistons en effet à un intéressant et, quand on y pense, très amusant chassé-croisé entre deux mouvements inverses. Vous avez d'un côté le mouvement de reconstruction ou de réinvention de Confucius qui s'observe en Chine continentale à l'heure actuelle et dont nous avons dessiné les grandes lignes au tout début de ce cycle. Et de l'autre côté, vous avez le mouvement tout à fait parfaitement contraire de déconstruction de la figure de Confucius et du texte des entretiens qui prend de l'ampleur surtout dans les milieux sinologiques occidentaux et dont il va être largement question cette année. Alors, je m'empresse de préciser que ce mouvement de déconstruction, même s'il peut prendre parfois des formes assez radicales, ne doit en aucun cas être confondu avec les mouvements de destruction et de démolition de Confucius et du confucianisme qui ont ponctué le XXe siècle. Autrement dit, ne confondons pas donc déconstruction et destruction. Alors, quand on parle de destruction, on songe en particulier au paroxysme destructeur qu'ont été, il y a un siècle, le mouvement du 4 mai 1919 et donc un demi-siècle plus tard, la révolution culturelle des années 1960-70 et que je viens de rappeler tout à l'heure. Bien au contraire, alors que ce sont très souvent les destructeurs ou démolisseurs qui s'acharnaient à démolir Confucius dans leur jeunesse et que l'on retrouve aujourd'hui dans le costume de reconstructeurs les plus zélés, en revanche, les déconstructeurs sont pour la plupart extérieurs à cette histoire chinoise récente, puisque ce sont des universitaires, pour la plupart, européens et américains. Donc, si vous voulez une sorte de résumé en image de ce qui s'est passé en l'espace de seulement une génération, vous avez donc cette image de destruction que j'évoquais tout à l'heure, qui est actuellement suivie de la réinstallation de la statue de Confucius qu'on s'est appliqué à démolir donc, lors de la génération précédente. Donc là, on la retrouve depuis la dernière décennie, c'est-à-dire depuis, en gros, le début des années 2000. En particulier, vous l'avez ici, à l'entrée du campus de l'Université du Peuple. Alors, je vous rappelle que l'Université du Peuple a été créée à l'origine pour former les cadres du Parti communiste chinois. Et c'est encore à l'heure actuelle un siège important du think tank, comme on dit maintenant, c'est-à-dire donc de ce qu'il convient de penser donc, pour les dirigeants chinois. Alors, vous avez cette statue de Confucius où il est représenté donc comme un sage suprême, voire un saint. Et ce qui est assez amusant à constater, c'est que Cette statue, vous verrez qu'elle est étrangement inspirée du Confucius des Jésuites. Voyez, alors là, vous avez donc, par exemple, une représentation de Confucius qui figure dans le Confucius Sinarum Philosophus dont je parlais tout à l'heure. Alors, symboliquement, cette statue de Confucius a maintenant remplacé celle du grand timonier, du président Mao, comme icône ou emblème résumant à lui seul l'identité chinoise. Donc, cette statue de Confucius, on la trouve sur un bon nombre de campus universitaires et dans d'autres lieux publics en Chine, qui peuvent aller de librairies à des bibliothèques, des musées, donc en gros, enfin, tout ce qui a trait à la culture, mais aussi on peut la voir dans des stations de métro, dans des grands magasins et, comme c'est le cas ici, dans des entrées d'hôtels. Et même, alors là, j'espère que vous vous rendez compte de ce que ça représente, sur la place Tiananmen, où elle a trôné pendant un laps de temps malheureusement très court, face au portrait du grand timonier, devant le musée d'histoire, avant d'être retirée au printemps dernier pour des raisons non encore élucidé. Je vous ai mis cette photo donc, de cette statue de Confucius dont a bénéficié la place Tiananmen et qui figure sur la couverture donc, d'un ouvrage d'un très grand sinologue japonais. Takeuchi Minoru, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Parce que, évidemment, donc, les Japonais, et particulièrement les sinologues japonais, sont évidemment aux premières loges et sont les meilleurs observateurs de ce qui se passe en Chine actuellement. Alors, la conséquence de cette entreprise de réhabilitation, est la suivante. En même temps que, excusez le mauvais jeu de mots, mais en même temps que Confucius retrouve sa statue, le texte des entretiens retrouve son statut de texte canonique. Et il est même promu au rang de texte sacré ou d'écriture sainte. L'intention manifeste qu'il y a derrière étant de faire jeu égal avec les évangiles ou la Bible qui sont censés être les textes sacrés de l'Occident chrétien. Alors, vous vous rappelez peut-être les images que je vous montrais l'année dernière de la scénographie du site supposé de la naissance de Confucius près de Chufu, dans la province actuelle du Shandong, à la colline Nishan. Alors là, je reviens très rapidement donc, à mon glossaire. Donc, Nishan, ici, c'est-à-dire littéralement la montagne où il s'agirait, vous allez voir plutôt d'une colline, voire d'un petit monticule, donc Nishan, par référence donc, attendez, pardon, par référence à l'une des appellations donc de Confucius, Chongni. Donc cette colline, ou plutôt ce petit monticule ou tertre de Nishan, vous l'avez ici. Vous voyez que bon, parler de montagne, c'est un petit peu exagéré. Mais cette montagne a été désignée donc comme lieu supposé de naissance de Confucius. Et si vous vous rapprochez, vous voyez ici une stèle, et si vous vous rapprochez, vous voyez qu'il y a l'entrée d'une grotte qui, je suppose, veut. Là, vous, l'inscription en chinois vous dit que c'est la grotte du maître, Fu Zitong. Bon. Alors, je crois que. Bon, là, c'est tout bêtement, en fait, un creux dans la roche qui a été renforcé avec du ciment. Mais en fait, je pense que ça se veut être l'équivalent de la crèche. Et il y a donc une sorte de Bethléem confucéen autour de laquelle on peut escompter que vont bientôt venir converger et plier le genou les rois mages du monde entier. Et c'est d'ailleurs déjà le cas avec quelque chose dont je vous parlais déjà l'année dernière, le first. Là, vous avez ici donc les lieux saints, avec donc les stèles, mais aussi la petite buvette où vous pouvez vous procurer du Coca-Cola glacé. Les lieux saints sur lesquels s'est tenu donc le, comme vous, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, donc le First Nishan Forum on World Civilizations, c'est-à-dire donc le premier forum Nishan sur les civilisations du monde, excusez du peu, donc organisé il y a un an, à l'automne 2010. Et qui se voulait un dialogue entre confucianisme et christianisme. Alors, si la chose vous intéresse, vous trouverez à ce sujet sur le site internet du Nishan Forum un certain nombre d'articles que vous pouvez lire en chinois, mais il y en a aussi en anglais. Et je me contenterai donc d'en citer un dont le titre est à lui tout seul un vaste programme. L'article s'intitule « In Saints' Birthplace, Christian Missionaries Start a Spiritual Trip with Confucius ». Donc, sur le lieu de naissance du saint, alors le saint c'est Confucius, des missionnaires chrétiens, alors en l'occurrence ce sont des évangélistes ou plutôt télévangélistes américains tendance Billy Graham, donc des missionnaires chrétiens inaugurent un itinéraire spirituel aux côtés de Confucius. Il y a donc là une volonté manifeste de mondialisation doublée d'une sacralisation de Confucius qui est érigé en saint suprême. Je dirais même que si on ne se retenait pas, on pourrait carrément parler de quelqu'un de quasi divinisé, de toute évidence pour faire pièce à Jésus-Christ avec le projet d'en faire une figure aussi largement universel. Et c'est ce qui est résumé de manière légèrement caricaturale, excusez-moi le choc, dans cette image d'un Confucius Superman, donc, qui va sauver le monde en tant que héros de la connaissance. C'est inutile de vous préciser qu'il ne s'agit pas d'un journal de Chine continentale. Comme le montre malicieusement cet autre journal qui n'est pas non plus de Chine continentale, on peut aussi se représenter donc le maître sous les traits de ce vieillard kakoshim tout ridé, fripé, bossu et ratatiné. Donc ça pour vous introduire donc à la multiplicité, si vous voulez, des représentations possibles de Confucius. Alors, toujours est-il que dans le dialogue avec la tradition confucéenne, il semblerait que nous assistions à une revanche des évangélistes américains sur les missionnaires européens, en premier lieu catholiques, dont les traductions du corpus confucéen et notamment des entretiens ont prévalu, comme on l'a vu, entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Alors, nous aurons cependant, pour faire bonne mesure, l'occasion d'observer dans le détail un phénomène tout à fait intéressant, à savoir une tendance nouvelle qui est elle aussi issue d'une tradition protestante, mais qui est celle-là d'origine allemande et résolument critique, et qui trouve son inspiration et sa méthodologie dans l'exégèse biblique. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une lecture critique. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'observer que cette nouvelle tendance est en train de migrer dans les milieux américains et plus généralement anglophones, puisque un certain nombre d'universitaires d'origine allemande, faute de pouvoir trouver des postes d'enseignement chez eux, se retrouvent à coexister. Allô ? Oui. Se retrouvent à coexister avec des homologues chinois qui, eux aussi, sont de plus en plus nombreux à occuper des postes d'enseignement et de recherche dans les structures universitaires américaines. Ce qui donne donc un face-à-face tout à fait intéressant. Et c'est ce qui me fait parler aussi, dans un autre sens, d'une troisième mondialisation de Confucius. Alors, cette année, notre revisite de Confucius, qui est partie du retour de Confucius en Chine, va donc se clore sur un retour à Confucius, hein, c'est-à-dire un retour aux sources, et aux sources textuelles, bien entendu. Alors, ce sera pour moi tout particulièrement un retour aux sources, puisque, comme je vous le disais d'entrée de jeu, c'est avec ma traduction des entretiens, parue aux éditions du Seuil en 1981 et qui a tout juste 30 ans cette année, c'est avec cette traduction que j'ai fait mes premières armes en sinologie. Alors, inutile de vous dire que depuis, j'ai changé, la sinologie a changé et la perception des entretiens a changé. Bref, tout a changé. En effet, force est de faire la constatation suivante. Alors qu'il y a 30 ans, quand je me suis engagée dans ces études sinologiques, les études sur Confucius et le confucianisme étaient un domaine très calme, voire quasi désert, qui intéressait très peu de spécialistes, puisque l'attention en Europe et aux États-Unis s'était tournée depuis les années 1960 vers le bouddhisme et le taoïsme, autrement dit les sagesses orientales, que privilégiait donc la génération des babacools. Aujourd'hui, la situation a changé du tout au tout. On a l'impression que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est le monde entier, se rue sur le sujet, et depuis une décennie, les publications, colloques et autres séminaires, le mien y compris, se multiplient à qui mieux mieux, un peu partout, et ça pousse véritablement comme des champignons. On a l'impression de vannes qui se sont brusquement ouvertes et d'un véritable déferlement sur Confucius et les entretiens aussi bien en Chine qu'ailleurs dans le monde. Ce qui justifierait là aussi de parler de troisième moment de mondialisation de Confucius. Alors, c'est justement ce phénomène de retour de Confucius en Chine qui a remis le texte des entretiens sous les projecteurs des médias et sous les microscopes des chercheurs, mais dans deux directions totalement opposées. Alors, autant les médias et tous les moyens médiatiques en général font des entretiens un texte sacré et sacralisé qui serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équivalent des évangiles pour l'Occident chrétien, autant les chercheurs, eux, s'emploient à découper le texte en petits morceaux et en fines lamelles pour mieux l'observer à la loupe et surtout à la lumière de la vogue déconstructionniste moderne, voire postmoderne. Alors, jusqu'ici, nous avons retracé environ quatre siècles de relecture et de réinterprétation européenne et américaine de Confucius et de ses entretiens, travail généalogique qui nous a fait passer par les perspectives, les stratégies et les méthodologies les plus diverses, qu'elles soient d'ordre philologique ou philosophique. Mais il est un point sur lequel il demeure un consensus général et implicite qui n'a jamais été, du moins jusqu'à une époque toute récente, remis en question ni par la tradition chinoise ni par les diverses interprétations occidentales. C'est une sorte de vulgate que je reconnais volontiers avoir moi-même véhiculée et qui est fondée sur trois présupposés principaux. Les entretiens représentent, le premier présupposé est le suivant. Donc, les entretiens est l'unique témoignage direct que nous ayons sur l'enseignement de Confucius. Autrement dit, nous avons ici l'idée d'un lien intrinsèque entre les entretiens et Confucius qui n'a jamais été remis en question. Deuxième présupposé, donc, le titre du Lunyu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est traduit conventionnellement en français par entretien ou en allemand par Gespräch. Ce sont donc des traductions qui représentent en soi le parti pris de comprendre le Lunyu comme un texte de conversation ou de dialogue entre Confucius et ses disciples ou certains de ses contemporains. Le troisième présupposé est le suivant. Le texte du Lunyu, donc des entretiens, est sinon de la main de Confucius, du moins de celle de ses disciples ou arrière-disciples, ce qui présuppose un lien de continuité entre le personnage de Confucius et le texte du Lunyu. Et cela implique une datation du texte qui remonterait, sinon à Confucius, qui, je vous le rappelle, a vécu entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne. Ces dates conventionnelles sont 551-479. Donc, ce texte remonterait, sinon à l'époque de Confucius, du moins aux générations suivantes, c'est-à-dire entre le 5e et le 4e siècle avant l'ère chrétienne. Autrement dit, très nettement, à une date très nettement antérieure à l'instauration de l'ère impériale, donc à la fin du IIIe siècle, avant l'ère chrétienne. Je vous rappelle cette date qu'il est bon de mémoriser, 221 avant Jésus-Christ, donc c'est l'instauration du premier empire centralisé donc par Qin Shi Huangdi, donc le premier empereur. Alors, les présupposés, ces trois présupposés que je viens de mentionner, sous-entendent à leur tour une forme d'unité et de cohérence dans la composition du texte des entretiens. Or, ce sont tous ces présupposés qui sont actuellement remis en question par divers courants de critique textuelle que je vous propose d'examiner ensemble, donc à partir de jeudi prochain, si j'arrive à être là de nouveau, et vous aussi. Merci de votre attention.